Chers amis des cellules, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui la lecture de l'article du père Serge Thomas Bonino sur le salut des enfants morts sans baptême. Nous avions vu la fois dernière comment le salut était lié au baptême, à la mort et à la résurrection du Christ, qui nous permettait d'être élevés à la vie divine. Nous avions vu aussi comment la réflexion de l'Église avait aménagé l'hypothèse des limbes pour tenir à la fois cette nécessité du salut et puis cette idée de justice que des enfants n'ayant commis aucun péché personnel ne pouvaient pas subir exactement le même sort que ceux qui avaient rejeté volontairement l'alliance avec Dieu. Nous avions donc découvert l'hypothèse des limbes, cet état de damnation, de séparation d'avec la plénitude de la vie divine, et en même temps cet état des limbes particuliers, puisqu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de feu de l'enfer dans cet état, mais une joie naturelle de connaissance de Dieu comme celui qui nous a donné la vie, quoique ce ne soit pas une pleine participation à la vie divine. Cette hypothèse avait représenté l'enseignement commun de l'Église depuis le XIIe-XIIIe siècle jusqu'à nos jours, où des motifs ont été développés pour penser et pour espérer une plénitude de salut pour ces enfants. Et donc nous allons regarder aujourd'hui quels sont les motifs que nous trouvons dans l'histoire du salut et à partir de la réflexion théologique pour penser qu'un salut complet, donc une pleine communion à la vie divine, est aussi ouverte pour ces enfants qui étaient morts sans avoir reçu le sacrement du baptême. Je reprends la lecture et nous sommes sur le deuxième point de l'article « Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins ». Le pas en avant de la Commission théologique internationale consiste à affirmer que même pour les enfants morts sans baptême, sans le sacrement du baptême, je le rappelle, le salut total est possible. Possible s'oppose à impossible, mais aussi à certain. La CTI n'affirme pas qu'on peut être sûr et certain que tous les enfants morts sans baptême sont nécessairement au ciel. Elle appelle plutôt à la modestie. Il faut accepter parfois de ne pas savoir. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, et nous ne les connaissons, tant bien que mal, que pour autant que Dieu a jugé bon de nous les révéler. Or, c'est un fait, la révélation ne dit rien sur le salut de ses enfants. Nous ne savons donc rien avec certitude, et toute déduction a priori reste sujette à caution, quand elle n'est pas confirmée par la parole de Dieu. Ces réserves étant faites, il y a cependant dans la révélation des indices qui permettent d'envisager une possibilité de salut pour des enfants morts sans baptême. Il y a des raisons d'espérer, c'est le troisième chapitre. J'en retiens trois. Comprenons bien la nuance. Nous n'avons pas de certitude comme nous en avons pour les petits-enfants morts en étant baptisés, où il y a certitude de foi qu'ils sont au ciel, mais il va y avoir des raisons d'espérer, et même des raisons fermes d'espérer un salut complet pour ces enfants morts sans le sacrement du baptême. C'est l'avancée, c'est l'affirmation d'une espérance d'un salut complet pour ces enfants, et pas simplement d'une joie naturelle, mais séparée de la pleine communion avec Dieu. Je reprends. Primo, la CTI insiste sur le sérieux de la volonté salvifique universelle de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2,4. Cette volonté exprime la miséricordieuse philanthropie de Dieu. Philanthropie, c'est l'amitié de Dieu pour l'homme. Miséricordieuse philanthropie de Dieu à laquelle l'Église accorde, à juste titre, plus de poids que par le passé. Secundo, elle rappelle que Dieu ne s'est pas lié au sacrement. Il peut donner directement la grâce qu'il confère habituellement à travers les sacrements. Tertio, elle souligne la primauté de la grâce du Christ sur le péché d'Adam. Où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Comme le dit la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, Par l'incarnation, le Christ, nouvel Adam, s'est uni d'une certaine manière tout être humain, y compris les enfants qui ne seront pas baptisés. Pour eux, cette solidarité avec le Christ ne serait-elle pas plus forte que la compromission avec Adam ? Mais cette thèse de la solidarité de tous les hommes avec le Christ en vertu de l'incarnation appelle encore un approfondissement théologique. Reprenons ces trois points. Le premier, la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Cela signifie donc que Dieu va également se donner les moyens pour que le salut accompli par le Christ puisse rejoindre tous les hommes. Et on accorde désormais plus de poids qu'on ne le faisait auparavant à cette volonté universelle de salut de la part de Dieu. Deuxièmement, et c'est une chose vraiment très importante, on rappelle que la grâce de Dieu n'est pas limitée aux sacrements. La grâce de Dieu se donne pleinement par les sacrements, et c'est la voie ordinaire voulue par Dieu. Mais Dieu a aussi la possibilité d'accorder sa grâce par des voies extraordinaires. Des voies extraordinaires, ça veut dire que c'est des voies que nous ne discernons pas complètement, dont Dieu dispose, mais nous ne les discernons pas complètement. Ça ne doit pas nous dispenser d'user de la voie ordinaire, de la répandre, puisque c'est la voie ordinaire que Dieu nous a confiée, mais il y a des voies exceptionnelles par lesquelles Dieu peut agir. Dit autrement, le Christ peut conférer la grâce du baptême, c'est-à-dire l'union à la mort et à la résurrection de Jésus qui nous rend participants de la vie divine. Le Christ, Dieu peut accorder la grâce du baptême par des voies non sacramentelles. Ainsi, toute personne qui est sauvée l'est parce qu'elle est baptisée, mais on peut être baptisé par un baptême non sacramentel. C'est une voie extraordinaire qui relève de Dieu et qui complète de la part de Dieu la voie ordinaire qu'il a choisie et voulue, qui est celle du baptême sacramentel. Le troisième point relevé par le père Bonino est la disposition au salut que provoque l'incarnation du Christ. Autant l'union à Adam nous avait disposé à la damnation, à la séparation d'avec Dieu, en nous faisant hériter du péché originel, cette blessure de notre capacité d'aimer, autant l'incarnation, elle, nous dispose tout à fait différemment et nous dispose au salut et à la communion avec Dieu. Mais on souligne que ce point du poids de l'incarnation comme disposition au salut est un élément de la théologie qui doit encore être approfondi. Donc on le travaille, mais il a besoin encore d'approfondissement. Je reprends la lecture. Quoi qu'il en soit, ces éléments et d'autres encore convergent vers l'idée que le salut de ces enfants est possible. Ils donnent des raisons d'espérer. Cette évolution doctrinale a d'ailleurs été anticipée par la liturgie, puisque le missel romain réformé, et réformé depuis le Concile Vatican II, prévoit un rituel pour les funérailles des enfants que leurs parents avaient l'intention de baptiser, mais qui n'ont pu l'être. On y confie ces enfants à la miséricorde du Père. Nous abordons le dernier point de l'article, la grâce miséricordieuse du Seigneur. Mais concrètement, par quelle voie la grâce rédemptrice de Jésus-Christ peut-elle atteindre ses enfants ? Comment sont-ils configurés au mystère pascal ? Le cas des saints innocents, assimilés au Christ par leur passion, peut sans doute être étendu aux enfants qui meurent victimes du péché des hommes et de la haine de Dieu. Mais la grâce de la justification peut aussi atteindre directement certains enfants par des voies connues de Dieu seul. Un peu comme la Vierge Marie a été justifiée dans l'instant même de sa conception, ou comme Saint Jean-Baptiste a été sanctifié dans le sein de sa mère. Toutefois, le Christ associe toujours l'Église, son épouse, à cette sanctification non sacramentelle. Il y a une médiation maternelle de l'Église qui s'exerce surtout par l'intercession des fidèles. Telle est la conclusion pratique essentielle de ce document. Les chrétiens doivent certes avoir à cœur de présenter sans tarder les enfants à la grâce du baptême, c'est-à-dire du baptême sacramentel, mais ils doivent aussi prier instamment pour ceux qui sont privés de ce secours sacramentel, afin que le Seigneur les enveloppe de sa grâce miséricordieuse et les fasse passer des ténèbres du péché, dans lesquelles tout homme est conçu, à son admirable lumière, dans laquelle tout homme accède à la vie. Ces derniers paragraphes relèvent le fait que, dans l'histoire du salut, nous voyons qu'il y a des épisodes où la grâce de Dieu a été donnée de façon un peu exceptionnelle. La conception de la Vierge Marie, la conception immaculée, préservée du péché originel, la sanctification de Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, la grâce des saints innocents qui n'avaient pas non plus l'usage de la raison mais qui sont morts à cause du Christ et qui sont associés à sa passion et à sa résurrection. Donc nous voyons que l'hypothèse des voies exceptionnelles du salut sont déjà présentes dans l'histoire de l'Église, l'histoire du salut telle qu'elle nous est présentée, et donc on a des motifs d'espérer que par ces voies extraordinaires, Dieu peut rejoindre ses enfants, mais on insiste aussi sur le fait que cela doit être porté par l'Église, c'est-à-dire qu'il y a une médiation du peuple de Dieu, c'est-à-dire notre médiation, comme peuple de Dieu, pour porter le salut de Dieu, pour demander le salut de Dieu, et en particulier le salut de Dieu pour ses enfants morts sans baptême. C'est notre tâche de les présenter à la miséricorde de Dieu. Sur ce point de l'intercession, tâchons de comprendre ce qui est en jeu. L'intercession n'est pas un moyen de forcer Dieu à être miséricordieux, car sinon il ne le serait pas. Dieu est miséricordieux, il a déjà tout donné en son Fils Jésus. Et la volonté de salut de Dieu, ce n'est pas elle qui est en cause. Ce qui est en jeu, c'est que nous prenions part à l'histoire du salut telle que Dieu l'a voulu. Dieu nous a voulu, nous, aujourd'hui. C'est nous qu'il envoie comme témoins du Christ, comme visage du Christ à nos frères. Et donc l'intercession nous est donnée pour nous garder de nous désintéresser du salut de nos frères sous prétexte que Dieu serait miséricordieux. Il y aurait une incurie grave qui nous guette dans ce cas-là, se dire, mais à quoi bon prier pour tous ces gens-là, que je ne connais pas bien, qui n'ont pas reçu les moyens ordinaires du salut, puisque Dieu est miséricordieux, il s'occupera bien d'eux. Dans ce cas, j'abandonne le poste de veilleur que le Seigneur nous a donné. Nous sommes les veilleurs pour le monde, à travers la vie sacramentelle, à travers la vie en Église que nous devons promouvoir, et par cette intercession, intercession attentive et fidèle, pour demander que cette grâce de Dieu passe aussi par les chemins extraordinaires, par les chemins cachés à nos yeux, pour rejoindre ceux qui échappent aux moyens ordinaires du salut. L'intercession complète ce qui est au-delà du travail de nos mains, ce qui est au-delà de la portée de nos voix. Elle fait partie de notre responsabilité de peuple de Dieu, de peuple de prêtres qui présentons le monde à Dieu et qui lui présentons peut-être tout particulièrement ses enfants morts sans baptême. Terme de cette lecture, retenons peut-être quatre points. Premièrement, l'hypothèse des limbes peut toujours être tenue. C'est une opinion théologique qui n'a pas été rejetée. Seulement, c'est le deuxième point, l'enseignement commun de l'Église préfère désormais une autre opinion théologique. Nous pouvons avoir une ferme espérance d'un salut complet pour les enfants morts sans baptême sacramentel, c'est-à-dire l'espérance d'une participation de ces enfants à la vie divine, à la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Troisièmement, cette espérance vient du fait de la possibilité d'un baptême non sacramentel par des voies extraordinaires du salut, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'être rendu participant de la mort et de la résurrection du Christ qui nous lave du péché et qui nous élève à la vie divine. Il y a une participation d'être uni au Christ en dehors de la voie ordinaire qui est le baptême sacramentel. C'est un chemin extraordinaire que Dieu connaît, que Dieu ouvre par l'Esprit Saint. Quatrièmement, l'intercession pour les enfants morts sans baptême est une mission du peuple de Dieu, peuple de prêtres, qui ne peut s'en désintéresser sous prétexte que Dieu serait miséricordieux. Nous avons à présenter ces enfants dans notre prière à la miséricorde de Dieu au nom de ces voies extraordinaires du salut que Dieu sait faire entrer dans l'histoire des hommes. Je vous remercie. Bons échanges.